souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. À la une, ce mercredi 2 novembre. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré signent un accord de cessation des hostilités. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu aujourd'hui au Mali pour sa première sortie à l'étranger. Reportage de notre correspondant sur place. Le Kenya annonce l'envoi de troupes en RDC pour combattre les rebelles. La Corée du Nord a lancé au moins 23 missiles, provoquant une brutale hausse des tensions avec son voisin du Sud. La Russie a repris mercredi sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré s'accordent sur une cessation des hostilités. C'est ce qu'a déclaré Olusegun Obasanjo, médiateur de l'Union africaine sur le conflit au Tigré. Il a fait ce mercredi le point sur les pourparlers à Pretoria. Plus de détails avec Mohamed Oumfa.
Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté de cesser les hostilités, a déclaré Olusegun Obasanjo, haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. Les rebelles tigréens ont salué un nouveau départ, affirmant avoir fait des concessions. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie, s'est félicité l'Union africaine. Mardi, le premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que son gouvernement est en train de gagner la guerre qu'il oppose depuis 2 ans aux rebelles de la région du Tigré. Alors que nous mettons un point final par une victoire à la guerre dans le nord, nous devons amener la paix, le développement et assurer la prospérité de l'Éthiopie afin que ceux qui provoquent de loin des conflits au sein des Éthiopiens se sentent honteux, a-t-il déclaré devant une foule de partisans dans le sud de l'Éthiopie à moins de 48 heures du deuxième anniversaire du déclenchement le 4 novembre 2020 de ce conflit meurtrier. Les négociations entamées le 25 octobre devaient initialement se terminer le 30 octobre, mais un porte-parole de la Commission de l'Union africaine a indiqué lundi qu'elle se poursuivrait et qu'aucune date limite n'a été fixée.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fait part ce soir de son engagement fort à appliquer l'accord de paix signé à Pretoria. Et les États-Unis ont salué cette trêve, affirmant espérer qu'elle ouvre la voie à la fin des violations des droits humains liées au conflit. Le Kenya a annoncé ce mercredi le déploiement de troupes en République démocratique du Congo dans le cadre d'une intervention militaire régionale pour soutenir le régime congolais face aux rébellions actives dans l'est de la RDC. Rosine Munezero.
En tant que voisin, le destin de la RDC est lié au nôtre, a lancé le président William Ruto à Nairobi lors d'une cérémonie de présentation du contingent, rappelant que la force régionale doit compter également des militaires du Burundi, d'Ouganda et du Soudan du Sud. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune, a poursuivi le chef de l'État kényan, sans préciser le calendrier de déploiement des troupes. Des sources militaires à Nairobi ont refusé de révéler le nombre de soldats kényans qui seront envoyés, évoquant des questions évidentes de sécurité. La RDC tente de contrer les activités de dizaines de groupes armés qui prolifèrent dans l'est du pays, où la tension est vive dans le nord Kivu. Après des semaines d'accalmie, le M23 est passé à l'offensive le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, où il s'est emparé de villes sur un axe routier stratégique menant à Goma.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, justement, des slogans hostiles au Rwanda, à l'Ouganda, mais aussi à l'Occident, ont été scandés ce mercredi à Bukavu par des manifestants mobilisés contre la rébellion du M23. Des drapeaux français de l'Union européenne ont aussi été vandalisés. Les rebelles ont gagné du terrain depuis une dizaine de jours dans le nord Kivu, s'approchant à quelques dizaines de kilomètres de Goma, chef-lieu de la province, où des milliers de manifestants ont défilé lundi contre le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir le M23. Au Nigeria, un groupe criminel a enlevé 39 enfants travaillant dans une ferme dans l'état de Katsina dans le nord-ouest en vue d'obtenir une rançon. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police et un responsable local. Ousmane Sonko, le principal opposant sénégalais, a appelé aujourd'hui ses partisans à rester calmes à la veille de sa convocation judiciaire. Le climat est tendu à cause d'un précédent dans la même affaire qui avait déclenché plusieurs jours d'émeutes meurtrières. Suite du sommet de la Ligue arabe qui se tient dans la capitale algérienne depuis hier, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé ce mercredi les dirigeants arabes à un soutien accru face à Israël, où Benjamin Netanyahou semble en passe de revenir au pouvoir grâce à une alliance avec l'extrême droite. Depuis l'ouverture du sommet mardi soir, les dirigeants arabes ont répété leur attachement à la création d'un État palestinien qui figurera également dans la déclaration finale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les deux Corées ont procédé ce mercredi à des échanges de tirs de missiles. Pyongyang en a lancé environ une vingtaine, dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, ce qui a amené Séoul à riposter en lançant trois missiles vers la mer. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol dénonçant une invasion territoriale de fait. Plus de précisions avec John Linden.
Un missile balistique de courte portée attribué à la Corée du Nord a tout d'abord franchi la ligne des limites du Nord, qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux pays, provoquant une rare alerte aux raids aériens demandant aux habitants de se réfugier dans des abris souterrains. Selon l'armée de Séoul, c'est la première fois depuis 1953 qu'un missile nord-coréen est tombé si près des eaux territoriales du Sud. Peu après, l'armée sud-coréenne a rapporté avoir tiré trois missiles air-sol près de l'endroit où le missile nord-coréen était tombé. Un geste suivi immédiatement d'une salve de l'artillerie nord-coréenne. Le président sud-coréen a qualifié ces tirs d'invasion territoriale et a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité. Séoul et Washington organisent actuellement le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire, baptisé « Tempête vigilante » et que la Corée du Nord a qualifié d'agressif et provocant. Elle a mis en garde les deux pays, déclarant qu'ils devront payer le prix.
Par ailleurs, Washington accuse la Corée du Nord d'envoyer secrètement des obus à la Russie. Pyongyang fournit de manière dissimulée une aide à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. D'autre part, M. Kirby a affirmé que les États-Unis étaient devenus au fil des mois de plus en plus préoccupés par l'éventualité d'une potentielle frappe nucléaire de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. La Russie a repris ce mercredi sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou dit avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
La Russie considère que les garanties reçues jusqu'à présent semblent suffisantes et reprend la mise en œuvre de l'accord, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est garant de cet accord crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, a confirmé la reprise à partir de ce mercredi des exportations ukrainiennes en mer Noire via ce couloir sécurisé. Moscou avait suspendu samedi sa participation à l'accord céréalier après une attaque au drone sur sa flotte basée en baie de Sébastopol, en Crimée annexée. L'armée russe a imputé cette opération à l'Ukraine. Une série d'appels téléphoniques ces derniers jours entre responsables russes et turcs et l'intercession de l'ONU, autre garant de l'accord, semble avoir convaincu Moscou de revoir sa position. L'accord a été signé à Istanbul le 19 juillet pour 4 mois et vise à prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique. Il a déjà permis l'exportation de près de 10 millions de tonnes de céréales ukrainiennes depuis le début du conflit.
En Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé ce mercredi les États-Unis de chercher à manipuler l'opinion publique en soutenant le mouvement de contestation déclenché à travers le pays par la mort en détention d'une jeune femme. L'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre d'une kurde iranienne après son arrestation par la police des mœurs. Au Brésil, des manifestants bloquent toujours des routes pour protester contre la défaite électorale de Jair Bolsonaro. Mais les barrages sont moins nombreux depuis le feu vert donné par le président à la transition avec son successeur de gauche, Lula. La police a enregistré plus de 167 barrages contre 271 hier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Ouverture à Abidjan du Forum d'investissement en Afrique organisé par la Banque africaine de développement jusqu'au 4 novembre. Environ 1500 participants sont attendus à cette troisième édition sous le thème de la résilience économique grâce aux investissements durables. L'événement permettra de mobiliser des investissements dans les secteurs de l'énergie et du climat. D'autres secteurs sont concernés tels que la sécurité, les télécommunications et la santé. Au Cameroun, le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications, Philémon Zouzamé, a mis en demeure Orange, MTN, Nextel et l'opérateur public Camtel. L'ART a constaté des manquements sur la qualité de service, la couverture et les tarifs, entre autres problèmes. Une première mission d'évaluation a déjà été effectuée fin octobre au centre de données de l'opérateur MTN Cameroun à Douala. D'autres sont prévus auprès des quatre opérateurs du pays. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient font face à un risque très élevé de pénurie d'eau et de nourriture, alerte Greenpeace à 5 jours de la COP27 en Égypte. Les agriculteurs sont particulièrement exposés à la raréfaction de l'eau et la hausse des températures qui pourrait dépasser 56 degrés Celsius par endroit, s'alarme l'organisation écologiste. Les Émirats arabes unis, qui organiseront la COP28 en 2023, ont promis d'investir dans les énergies alternatives.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
La liste marocaine des forfaits pour le mondial 2022 se rallonge.
Oui, c'est ce que nous apprend le site Afrique Foot qui souligne qu'après Adam Massina, Imran Louza et Tariq Tissoudali, un quatrième lion de l'Atlas a déclaré forfait pour le mondial. Il s'agit du portier Anas Zeniti, 34 ans, qui était en concurrence avec Ahmed Reda Tagnaouti pour le poste de troisième gardien derrière Yassine Bounou et Mounir Mohad. Zeniti a été victime d'une intoxication alimentaire vendredi dernier à la veille du match de championnat contre le FUS Rabat. Le gardien du Raja Casablanca a été hospitalisé mais son état s'est dégradé et il a été opéré de l'appendicite et manquera 3 semaines de compétition.
Les problèmes extra-sportifs qui entourent le Mondial 2022 se poursuivent.
Dernier épisode en date, le Qatar rejette les appels d'ONG à la création d'un fonds d'indemnisation pour les travailleurs migrants tués ou blessés sur les chantiers de la Coupe du Monde. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail de ce pays du Golfe, Ali Ben Samik Al-Mari, qualifie ses appels d'ONG de coups de communication. Human Rights Watch et Amnesty International mènent une campagne visant à obtenir des compensations pour les travailleurs victimes d'abus comme des décès, blessures, salaires impayés et autres de la part de la FIFA et du Qatar. Réunis en sommet en Algérie, les dirigeants arabes ont dénoncé ce mercredi les campagnes de dénigrement visant, selon eux, le Qatar en lien avec l'organisation de cette Coupe du Monde prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain.
Le premier médaillé olympique kényan est décédé.
Wilson Chuma Kiprugu, premier médaillé olympique kényan grâce à sa troisième place aux 800 mètres des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, est mort hier mardi à l'âge de 84 ans. L'annonce a été faite par la Fédération kényane d'athlétisme. Selon sa famille, Wilson Kiprugu est mort à l'hôpital de Kericho dans l'ouest du pays après avoir perdu connaissance à son domicile. Chuma était un de ces athlètes qui ont mis le Kenya sur la carte du monde, a déclaré Jackson Tuwei, président de cette fédération. Après sa troisième place en 1964, l'athlète kenyan avait obtenu l'argent au JO de Mexico en 1968, toujours sur 800 mètres.
Ici, en NBA, les Brooklyn Nets s'inclinent encore.
Les Chicago Bulls ont infligé une nouvelle défaite aux Brooklyn Nets 108-99 en crise après le renvoi de leur entraîneur Steve Nash. Brooklyn, 13e de la conférence Est, présente désormais un bilan peu reluisant de 2 victoires pour 6 défaites. Dans les autres matchs, les Golden State Warriors ont subi leur troisième défaite consécutive en s'inclinant 116-109 contre le Miami Heat en Floride. Les Phoenix Suns ont signé leur cinquième victoire consécutive en battant à domicile Minnesota 116-107.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu ce mercredi à Bamako en début d'après-midi pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Une visite d'amitié et de travail entre les deux chefs d'État qui partagent les mêmes réalités géopolitiques. Quelle est l'analyse des Maliens sur cette visite? Élément de réponse dans le magazine de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Arrivé au pouvoir par les armes le 30 novembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré, désigné depuis comme le président de la transition, réserve sa première sortie au Mali. Ce qui n'est pas fortuit, selon Moussa Sayon Camara, journaliste spécialiste des questions politiques.
L'intérêt de cette visite, c'est d'abord relancer la coopération déjà existante entre le Mali et le Burkina Faso, surtout renforcer certainement la coopération militaire qui existe entre le Mali et le Burkina Faso. Cette visite permettra sans doute au président du Burkina de s'inspirer des cas maliens parce que le Mali aussi était dans pratiquement la même situation.
Intervenant dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes dans les deux pays, ce, malgré les efforts déployés, certains observateurs estiment que la question de la coopération avec la Russie et d'autres pays sera certainement abordée. Bourayma Soulou.
Je crois que Ibrahim n'a pas à décliner son programme de gouvernance pour l'instant. Mais j'espère quand même que, j'ose imaginer que, il prend des conseils dans le cadre peut-être d'un possible rapprochement entre l'État burkinabé et la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Beaucoup de Maliens espèrent que cette visite va redynamiser les rapports entre les deux pays, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mohamed Diallo.
C'est quelque chose qui sera bon pour nos deux pays. Stratégiquement, au niveau des frontières, si on parvient à se donner la main, on trouvera une solution durable de lutter contre le terrorisme.
Ayant connu deux coups d'État successifs et faisant face aux mêmes réalités, le Mali et le Burkina ont beaucoup de choses à se dire que leurs deux présidents devront aborder en 2 heures d'audience. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24. Les soldats de l'armée kényane qui doivent être envoyés en République démocratique du Congo dans le cadre de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été présentés aujourd'hui à Nairobi. Leur envoi dans ce pays se fera au moment où les rebelles du M23 qu'ils doivent combattre ont pris de l'avance sur le terrain. Eddy Sango a joint à Bruxelles un expert en matière de l'armée congolaise, Jean-Jacques Vondo.
Oui, aujourd'hui, le président kényan a présenté le contingent qui doit aller intervenir au Congo dans le cadre de la force régionale qui a été décidée par les États de l'Afrique de l'Est. Et il faut dire que cette décision a été prise déjà au départ en avril et puis au mois de juin et puis dernièrement au mois d'août. Il fallait que cette force soit endossée au niveau de l'Union africaine, ce qui a été fait au mois d'août. Et il y a eu des flottements au niveau de la mise en place de cette force parce qu'il y a eu entre-temps le Burundi qui avait envoyé ses militaires au Sud-Kivu, mais c'était plutôt dans un contexte bilatéral. Les Kenyans avaient envoyé récemment quelques observateurs pour étudier la situation du déploiement de ces troupes. Ils sont rentrés chez eux il y a quelques jours et là, la décision était prise au niveau du Kenya d'envoyer son contingent.
Quelle interprétation doit-on faire? Parce que depuis l'annonce de l'envoi de ces troupes, les M23 ont quand même pris de l'avance, ont pris du terrain.
C'est difficile et prématuré de faire une telle interprétation nette tant qu'on n'a pas vraiment d'éléments sur les raisons qui ont poussé à cette décision. Nous savons que sur le terrain, la situation s'est détériorée, le M23 est en train d'avancer et à mon avis, ça pourrait aussi avoir un effet plutôt dissuasif pour essayer un peu de calmer la tension au niveau de l'offensive, de la tension entre les deux parties et surtout alerter le M23, d'autant plus que quand le M23 a mené son offensive, c'était lorsqu'il y a eu un flottement, comme je l'ai dit, dans la mise en place de cette force. Et aussi, il y a eu aussi certains problèmes au niveau de la réorganisation du commandement de l'armée congolaise où on a remplacé certains chefs, on a arrêté plusieurs officiers. Le M23 avait profité pour pouvoir gagner du terrain. Et ici, cette décision pourrait avoir vraiment un effet, à première lecture, dissuasif, un effet dissuasif à l'égard du M23. Mais tout dépend effectivement de la manière dont cette force va être déployée sur le terrain, surtout que le déploiement doit se faire conjointement avec les unités congolaises.
C'était Jean-Jacques Mondo, expert en matière de l'armée congolaise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples marque son 35e anniversaire lors de sa 73e session ordinaire en novembre 2022. Elle est chargée de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les droits collectifs. Cependant, plusieurs pays du continent sont confrontés à des crises aiguës en matière de droits de l'homme. Pour parler des réalisations et des défis à relever, Eric Manirakiza a joint à Kampala Joseph Bikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits humains.
Le rôle de la Commission, justement, est de s'assurer que les États respectent leurs engagements dans le système africain des droits humains, mais également s'assurer également que l'État accompagne beaucoup plus ses citoyens dans l'accomplissement de leur bien-être. Quand on parle des droits humains, on parle également de droits économiques, sociaux, culturels, mais on parle de droits civils et politiques qui sont des droits à notre sens fondamentaux. Le droit à la parole, on ne peut pas, par exemple, dénoncer une corruption si on n'a pas la liberté d'expression, par exemple. Vous voyez, on ne peut pas s'unir, peut-être, si les conditions sont restreintes pour peut-être s'unir et réclamer une cause juste. C'est un peu difficile. Donc, la liberté d'association, la liberté de manifestation, la liberté d'expression sont également des libertés fondamentales qui doivent être respectées et dont la Commission accompagne les États dans ce sens, les aider à mettre sur pied ou à mettre en œuvre la Charte africaine, mais également leur rappeler leurs obligations, les obligations qu'ils ont faites par rapport à la Charte africaine des droits humains. La Commission a eu à mettre sur pied des mécanismes spéciaux qui traitent des causes spécifiques des droits humains. Et ça porte beaucoup une attention très particulière sur les droits humains sur le continent. Vous voyez, le continent fait face à beaucoup de défis. Il y a des défis sécuritaires, des conflits, mais il y a également des violations à l'égard des femmes. Il y a les atteintes aux libertés fondamentales, mais également, vous voyez, l'extraction des ressources naturelles sur le continent. Et je peux vous dire, par exemple, que ça, c'est une attention très particulière parce que vous savez, les forces, les multinationales sont en train d'exploiter le continent. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a eu un très grand progrès, mais rappelons toutefois que ces défis sont là. On ne peut pas avancer sans défis. Mais à mon sens, la Commission doit prendre maintenant 35 ans, on est mature, prendre cette maturité pour peut-être avancer d'un bon pas.
La Commission reçoit les plaintes des États parties, des particuliers, des organisations non gouvernementales, des 55 États membres de l'Union africaine. Mais ces États refusent d'exécuter les décisions de la Commission. En juin 2018, le Conseil exécutif de l'Union africaine a limité même le mandat et l'indépendance de la Commission. C'est un défi important. Comment relever ça?
Le Conseil exécutif n'a pas ce pouvoir parce que le pouvoir est donné déjà par la Charte africaine. Peut-être l'indépendance vient de la dépendance financière de la Commission africaine vis-à-vis de l'Union africaine. Et ça, je peux dire, c'est par exemple un danger pour le bon fonctionnement de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple.
C'était Joseph Bikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits humains. Les gouverneurs républicains de Floride et du Texas ont tenté de mettre en avant le nombre record de migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis en envoyant des milliers de demandeurs d'asile à Washington, New York et d'autres villes dirigées par des démocrates. Le reportage depuis New York d'Aaron Rannan sur ces arrivées et leur possible impact politique avant les élections de mi-mandat. Le récit est de Lionel Gaïma.
Des milliers de migrants sont arrivés par bus à New York. Pour beaucoup d'entre eux, le voyage vers les États-Unis a été périlleux. Un père vénézuélien témoigne.
La jungle est horrible, vraiment horrible. Notre fille a failli se noyer dans la rivière, mais Dieu merci, nous sommes ici.
Beaucoup disent qu'ils sont motivés par l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants. Jennifer, une réfugiée vénézuélienne.
Notre rêve est d'offrir un meilleur avenir à nos enfants, principalement en matière d'éducation. Au Venezuela, ils ne leur donnent pas une chance pour l'avenir.
Les gouverneurs républicains de Floride et du Texas affirment que les démocrates et le gouvernement fédéral ne font pas grand-chose pour stopper les arrivées records des migrants. Ils mettent en exergue le problème en envoyant des milliers de migrants dans des endroits contrôlés par les démocrates. Le gouverneur Ron DeSantis de Floride.
Nous ne sommes pas un État sanctuaire et il est préférable de pouvoir aller dans une juridiction sanctuaire. Et oui, nous aiderons à faciliter ce transport pour que vous puissiez aller vers des pâturages plus verts.
La Maison-Blanche accuse les républicains d'utiliser les migrants à des fins politiques. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.
Pour la gestion des migrants, les gouverneurs républicains interfèrent dans ce processus et utilisent les migrants comme des pions politiques, c'est honteux.
Les politiciens républicains tentent de mettre un coup de projecteur sur les problèmes qu'ils gèrent localement. Esther Fuchs, professeure à l'Université de Columbia.
C'est un football politique et il est conçu pour embarrasser les démocrates. La vérité est que c'est un problème national. Les ressources devraient venir du gouvernement national vers chaque juridiction qui accepte des demandeurs d'asile.
À New York, l'arrivée de plus de 18 000 demandeurs d'asile a poussé le système d'hébergement local au point de rupture. Les habitants expriment des avis mitigés sur la décision du gouvernement démocrate de la ville d'accueillir les migrants, notamment dans certains hôtels haut de gamme. Jeff Rica, résident de New York.
So what are we going to do? Let them die in the street? I think
we have to do it.
They're here now. Ils sont là maintenant.
Ils sont là. Donc on va devoir faire le mieux qu'on peut.
Jeff Young, un autre résident de New York.
Ce sont définitivement des mouvements politiques, des gens qui viennent dans le pays avec ou sans papiers, je suppose, et qui utilisent des ressources dont les Américains sont déjà à court.
Envoyer les migrants par bus pourrait-il influencer les électeurs? Esther Fuchs, professeur à l'Université de Columbia.
Ils sont plus susceptibles de considérer l'économie ou la criminalité que l'immigration comme la question décisive, par opposition à une question importante pour déterminer leur vote.
Quelle que soit la manière dont les Américains vont voter, l'approche polarisée des partis à l'égard de l'immigration et l'afflux continu de nouveaux demandeurs d'asile signifie que le sujet restera certainement un enjeu politique majeur dans ce pays.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Clermont Rangibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.